nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
Quand on est chargé de décider de l'avenir, quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Une personne a proposé la boule que tu trouves magnifique. On n'a pas les mêmes goûts, on va dire. Voilà.
Le musée, c'est l'ancienne chapelle des sœurs franciscaines.
Nous, on a eu un catéchisme qui a été fait par des sœurs missionnaires. On a eu une ouverture sur le monde. Elle est en EHPAD à Lille, elle a 97 ans. Quand elle décroche, c'est Jean-Claude. Ah, peins-moi de rantalon. C'était sa vie. Il a commencé par une machine à vapeur, qui, comme de bien entendu, lui a explosé à la figure, parce qu'il faut toujours des brouillons avant de faire des chefs-d'œuvre. Et quand j'ai débarqué dans la cour avec le notaire, j'ai vu que ça coinçait un petit peu. Ce qui est important, c'est pas la grande histoire, celle qu'on va chercher dans les archives départementales. La petite histoire, c'est la vie des gens.
À deux pas de Lyon, le pays mornantais. Un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui racontent son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu, décor de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux.
Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Rontalon, petit village perché sur son éperon rocheux au nord du pays mornantais. On se sent un peu isolé, comme protégé du bruit du monde, mais nous allons briser ce silence en faisant causer Jean-Claude et Georges, qui, paraît-il, ne sont pas avares de mots quand il s'agit de leur cher village. Jean-Claude, Georges, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez, pour commencer, vous présenter ?
Alors, Georges Grataloup, je suis habitant de Rontalon depuis ma naissance. Enfin, je suis né à Lyon, mais j'ai toujours, à part quelques mois, après mon mariage, mais je suis resté à Rontalon tout le temps, quoi. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai travaillé à la ferme jusqu'au service militaire, et puis encore après aussi, et puis au retour du service militaire, j'avais pas d'autre boulot, mon frère était à la ferme, je l'ai remplacé pendant qu'il faisait lui son service, et après, j'ai cherché un autre travail. Bon, j'ai fait des journées chez les agriculteurs, journée de manœuvre, enfin de riz agricole, quoi, voilà. Et puis après, été appelé à assurer le secrétariat de la mairie de Rontalon, oui, en octobre 1962. Et puis après, je suis allé à Soucieux, à la mairie, travailler à la mairie. Et je suis resté 20 ans à la mairie de Soucieux. Les premières années, j'ai fait les deux. Et puis après, en 1984, je suis allé à la mairie de Mornant. Jusqu'à 61 ans, à ma retraite.
Il y en a qui ont de la chance d'avoir leur retraite à 61 ans.
Enfin, bon, mais ben. Oui, mais...
Et donc, tu as quel âge ?
Eh bien, 86 bientôt.
Très bien. Jean-Claude ?
Alors, je m'appelle Jean-Claude Buyer, j'ai 74 ans. Je suis né donc au Ravière, c'est un des points les plus hauts de Rontalon. Il y a une croix monumentale et j'habite à côté de la croix. C'était un mot assez sympathique. On a des bons voisins. Il reste deux agriculteurs. C'est une voie rase en voie de disparition. Et j'ai été agriculteur jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis, donc, je suis encore un petit peu agriculteur parce qu'on l'est toute sa vie. Je livre encore quelques fruits à la Sicolie parce que j'aime bien le contact avec les collègues. Je suis un amoureux de mon village depuis toujours. On fait partie, avec Georges, descendants de vieilles familles, les vieilles familles de Rontalon, donc on va dire 300 ans, un peu plus. Bon, les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé un jour au maire de Rontalon. J'avais des gens précieux avec moi, dont Georges, qui était quand même un spécialiste de l'administratif. C'est très précieux. Voilà, alors je voudrais, en préambule, vous dire qu'on est ici, non pas en tant qu'ancien élu, on est ici en représentant d'une association qui s'appelle Culture et Tradition, créée en 87 et qui travaille sur l'histoire de Rontalon, qui propose des animations et qui a créé la salle d'exposition où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais dire quand même une petite chose, puisqu'on parle d'histoire. Quand j'étais élu, et j'avais des gens avec qui on se comprenait bien autour de moi, j'ai toujours dit, quand on est chargé de décider de l'avenir, quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ça, c'est primordial. Et ça, on voit arriver dans les villages une nouvelle génération de maires qui sont, on va dire, beaucoup plus instruits que nous, parce que nous, on a un petit brevet professionnel, des petites choses, on n'est pas allé bien loin dans les études. Mais ils ont une autre vision des choses. Et s'ils connaissaient mieux l'histoire du village, ils saccageraient moins le patrimoine. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui disent qu'ils font des bêtises. Bon, c'est interprété. Chacun interprète les choses. Il y en a qui trouvent que c'est peut-être bien. Mais c'est dommage de saccager le patrimoine. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'enlève ma casquette d'ancien maire. Culture et Tradition est heureux de vous recevoir.
Eh ben, merci en tout cas de nous recevoir. Et Jean-Claude, merci aussi pour ce petit message. Parce que mon collègue Théo, qui est à côté de moi, a un jour sorti la phrase « D'où l'on va ?» Et je crois que ça résume parfaitement ce que tu es en train de dire. En effet, c'est primordial tout ça, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. On va commencer à parler maintenant du village de Rontalon, que moi je connais très bien puisque j'ai kidnappé une demoiselle à Rontalon il y a quelques années. Et donc j'ai passé beaucoup de soirées ici et c'est un village de cœur voilà, que j'apprécie beaucoup. Alors déjà, Rontalon, comment on appelle les habitants de Rontalon? On sait aussi ici qu'on est un peu à la frontière, il y a Saint-Martin à côté, Turin, on est au milieu de plusieurs, on va dire géographiquement, de plusieurs cantons. Voilà, on parle un peu de Rontalon, combien il y a d'habitants, quelle est son altitude, enfin bref, voilà.
Alors, les gens nous appellent les Alanquais. Alors là, ça me fait un petit peu bondir, parce que on s'en est tenu à une version qui, à mon avis, n'est pas la bonne. On disait l'ancien clocher, parce que c'est l'ancienne église, on en reparlera plus loin de l'église. L'église Saint-Philibert, qui était donc sur la place actuelle, était une petite église romane très basse. Donc le clocher, la seule photo qu'on a, le clocher n'est pas alanqué. Il y a une autre version qui me semble plus plausible. Vous savez qu'autrefois, enfin il n'y a pas très très longtemps, il y avait des petits antagonismes dans les villages, des petits inimités, on va dire. Et on m'a raconté qu'à la suite d'une rixe qui serait été, je pense peut-être à la sortie du conseil des révisions, parce que le conseil des révisions se passait dans les cantons. Je suppose, je n'ai pas la certitude, mais il y a eu une rixe entre les Rontalonnais et les habitants d'un autre village que je ne veux pas citer. À l'époque, ça finissait à la castagne. Hein. C'était pas, on savait pas les calomnies par Internet. Hein. On se tapait de bon cœur sur la figure. Et ça a fini au tribunal. Et celui qui a reçu les coups, il se plaignait au juge en disant que le Rontalonnais l'avait frappé et l'avait fait tomber. Et le Rontalonnais a répondu « Non, monsieur le juge, il n'a fait qu'alanquer. Donc, il n'aurait fait que tituber, que se à l'enquête, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas tombé complètement. Alors, Alenqué, ce mot d'Alenqué, il a fait le tour du canton. Et moi, je pense que c'est plus la version. Il y a ce côté moqueur. Le clocher, c'est pas moqueur, parler du clocher Alenqué. Tandis que... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Georges.
Oui, oui, mais tout à fait, le clocher, il est bien droit. Il y en a d'autres qui sont un peu alenqués, mais ils sont pas jamais tombés. Hein. Le clocher de Soucieux, par exemple, il est un petit peu alenqué. Mais il n'est jamais tombé.
Donc, alenqué, ça veut dire penché hein, pour voilà, nos penché. Auditeurs.
Oui, oui. Parce qu'il y en avait qui disaient une version, c'est parce que le relief était accidenté, qu'on était toujours penché. Mais je pense que ça n'a pas de fondement, ça. Oui.
En tout cas, il y a plusieurs versions, mais le sobriquet des habitants de Rontalon, oui. Qui sont les Rontalonnais, on va dire, voilà, administrativement, mais c'est le sobriquet, les Alenqués, c'est comme ça qu'on appelle, qu'on donne le petit surnom aux oui. Rontalonnais. Et donc, il y a deux versions qui se...
Mais c'est un petit peu dommage que ça soit l'histoire du clocher qui soit retenue, alors que, à mon avis, ce n'est pas la bonne.
Ben, on est là, justement, pour en parler. Juge Georges, qui est toi dans la partie administrative, est-ce que tu peux nous donner juste l'altitude de Rontalon et le nombre d'habitants aujourd'hui, à peu près ?
Le nombre d'habitants, je crois que c'est, on n'arrive pas à 1200. Ça a diminué depuis le dernier recensement. Le nombre, je ne l'ai pas exactement en tête, mais je sais que ça a baissé, quoi. Parce qu'il y a pas mal d'anciens qui sont partis, sauf dans les EHPAD ou dans des villages-centres où il y a beaucoup plus de services, quoi, comme à Saint-Martin-en-Haut, par exemple, ou Mornant, surtout Saint-Martin-en-Haut. Voilà. Donc là, il y a un recensement en cours. On va savoir bientôt peut-être combien on est.
Et à quelle hauteur on regarde le monde à Rontalon, là ? Parce que c'est haut.
Alors, la particularité de Rontalon, c'est que le point le plus bas, côté Turin, c'est au bord d'un ruisseau, au Rieux, parce qu'il y a le Rieux d'un côté et le Rieux de l'autre. On est à 480, et si on va jusqu'à la frontière de direction Saint-André-la-Côte, on est à 850. Donc, sans sortir de Rontalon. Ça explique la diversité des cultures aussi, parce que les climats est différent, l'exposition est différente.
On va en parler juste après. En tout cas, je crois aussi qu'il y a un journal associatif qui s'appelle Le Petit Alenqué ici. Ça veut dire que vous êtes quand même, malgré les différentes versions et parfois le petit côté susceptible, vous êtes approprié quand même ce nom, ce sobriquet.
Oui, mais c'est une association qui le gère. Hein. Mais, ça nous dérange pas. Hein.
Non, pas du tout. C'est-à-dire, ce petit journal, avant, il s'appelait La Gazette. Et puis, après, La Gazette s'est arrêtée. Il y a un groupe qui a repris ça. Et ils ont baptisé le Petit Alenqué. C'est un journal qui donne toutes les informations sur la vie du village et les associations. Surtout les associations. Et puis, la mairie a une page aussi où elle fait passer ses informations. Ça paraît tous les mois, sauf au mois d'août. Et donc, voilà, ça convient aux gens. Enfin, il y a beaucoup d'informations qu'on ne saurait pas s'il n'y avait pas ce journal.
Donc, il est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres par un réseau de bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'on ne voit pas beaucoup au village. Parce qu'ils travaillent à l'extérieur, parce qu'il y a des familles dans les nouveaux qui s'intègrent peu ou pas. C'est l'école qui permet l'intégration. Et comme notre école a fait le plongeon, on a passé de 6 classes à 4 classes, je pense que soit il y a eu un manque de renouvellement de population, soit il faut donner des vitamines aux jeunes ménages. Il y a un truc qu'il faut, parce que ça ne remonte pas. Ça remonte difficilement.
D'accord.
Donc, pour dire que ça permet à celui qui prend le temps de le lire de savoir ce qui se passe à Rontalon. C'est très bien.
Ça nous est très cher parce que c'est aussi notre démarche en faisant ce podcast. C'est justement de pouvoir faire savoir un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est aussi faire des concerts qui réunissent les générations. Nous, c'est vraiment notre but de favoriser le lien par les podcasts, par la musique, par la culture. Donc tu vois, ça se rejoint. On aime bien parler des blasons aussi, parce qu'on trouve qu'ils représentent une espèce de symbolique, de couverture, un peu comme nous sur les disques du village. Alors parlez-nous du blason. Que symbolise-t-il ?
Ben, je vais en parler parce que c'est nous qui l'avons lancé. Donc on a voulu créer ce blason parce qu'on n'avait rien. Donc on avait fait appel à Monsieur Ernaud, qui était un érudit du patrimoine. Alors on a cherché qu'est-ce qui représentait bien le village. Donc dans les origines du village, mais on en parlera plus loin, il y avait le monastère du Souzy. Au Souzy, un mot qui est côté nord là-bas, il y avait un monastère de moines bénédictins qui dépendait de la commanderie de Chazelles. Et ce monastère, c'était en 1300-1400 à peu près, même un peu avant. Et c'était les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers de Malte. Donc, comme cette part d'histoire était importante, on a mis la croix de Malte. Alors, il y a l'histoire des pommes. Il y a trois pommes. Alors, il y a une histoire avec Rontalon et les pommes. Origine de la culture des pommes, c'est très particulier. Quand on a défriché les villages, on a commencé par les parcelles les mieux exposées. Il y avait beaucoup de vignes autrefois. Et puis surtout, les parcelles les plus favorables à la culture. Et à la fin du 19e, on a attaqué à défricher les parcelles au nord. Parce qu'il y avait une industrie qui achetait les souches de châtaignier pour traiter les cuirs. Donc on arrachait. Il y a beaucoup de châtaigniers à Rontalon, c'est l'essence dominante, hein, le châtaignier. Donc, et comme la culture des pommes se développait, on a planté des pommiers, des plein vent, des grands pommiers, parce que c'était des parcelles qui étaient abritées du vent du midi. Parce que la hantise des producteurs de pommes, c'était les grands coups de vent du mois de septembre, qui faisait tomber les pommes. C'était pour la Vogue, à peu près, qui avait ces grands coups de vent. Et Rontalon a été très connu sur la place de Lyon, puisqu'il y avait un endroit qui s'appelait Port Rontalon, qui était situé vraisemblablement dans le secteur du quai Gailleton, où on vendait les pommes de Rontalon. Et les producteurs de pommes, on les appelait les Rontalonerios. Parce qu'on avait des pommes qui se conservaient très bien, il y avait des coves fraîches, et on avait des pommes jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Donc cette histoire de pommes, on la retrouve dans l'histoire. Donc pour nous, il y avait le côté chevalier de Malte, histoire, et agriculture, puisque l'agriculture c'est quand même l'activité principale encore. Donc la production principale, c'était les pommes. Ça l'est moins maintenant.
Merci pour ça. Et j'avais lu une phrase qui disait « De gueule à la croix de Malte d'argent. Au chef d'or, charge de trois pommes. »
Chargé,
de trois pommes feuillées de sinople.
Oui, c'est les couleurs. Ça. C'est les couleurs.
Voilà, tout à fait. Oui.
De gueule, c'est rouge. Sinople, c'est vert. Enfin, c'est les couleurs moyenâgeuse.
Voilà. OK. Voilà. Parlons aussi maintenant donc plus du patrimoine bâti. On reviendra un peu sur le patrimoine naturel et surtout l'environnement naturel de Rontalon. Mais là, on aimerait bien partir du centre du village avec la fontaine et la sculpture en spirale que je trouve magnifique, très jolie.
Tu es le seul à la trouver belle.
Très bien. Ok, donc je suis le seul, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas regardé de trop près. Alors justement, faisons un zoom sur cette sculpture. Pouvez-vous nous en parler, nous dire aussi la petite phrase qui l'a inspirée? Voilà, on aimerait avoir votre avis subjectif et objectif sur cette sculpture et sur cette fontaine.
La fontaine, autrefois, elle était au milieu de la place, en haut. Voilà. Et pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'années de sécheresse, là. Et il manquait d'eau. Les gens venaient avec leur seau ou leur arrosoir le matin. Le cantonnier ouvrait la fontaine, tant qu'il y avait de l'eau, quoi. Et puis oui, le cantonnier, le garde, parce qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de cantonnier, je pense. Oui. Et cette fontaine, elle a été alimentée par une source qui était à Bezin. Une source naturelle, quoi. Parce qu'il y avait eu une baisse, je crois, de l'alimentation des ruisseaux qui sont originaires là, de la source un peu des Trois Curés, enfin le ruisseau principal. Et puis je crois que c'est la commune de Mornan qui avait acheté la source, quoi, en fait, à une époque. Et donc, du coup, le débit du ruisseau était beaucoup moins important, quoi.
Ils ont siphonné la source.
Ça a eu aussi une autre incidence, c'est que ça perturbait l'activité du moulin. Ça, pratiquement, c'était il reste un moulin qu'on appelle moulin de la dame, qui était le moulin du seigneur du village, et ce moulin n'avait plus assez d'eau. Alors, donc, comme a dit Georges, la commune a acheté une source, elle a alimenté un réservoir qui existe toujours, et ça alimentait la fontaine, et puis il y avait des bornes, il y avait trois bornes fontaines, on tournait une manivelle. Et ensuite, il y a eu la distribution dans les villages, de quelques maisons du centre-bourg. Et puis, ce qui se passait aussi, ce qui a motivé aussi la création de cette distribution d'eau, c'est qu'il y avait beaucoup de puits pollués, parce qu'il n'y avait pas les égouts dans le village. Les puits étaient pollués. Donc, ça a permis d'avoir de l'eau potable. Donc, à l'an 2000, la fontaine ne marchait plus puisque le syndicat des eaux Miry-Mornan nous a amené l'eau, dont j'ai été président, je précise, a amené un réservoir dans les terrains de la famille Grataloup d'ailleurs. Et ce réservoir faisait 100 mètres cubes et il a alimenté le village à partir de 1957. Et puis après, bon, avec le développement du village, on a construit un second réservoir. Alors, la fontaine, donc, à l'an 2000, on a voulu marquer le coup. Elle est arrêtée de 1957 à part un tuyau qui déversait le trop-plein du réservoir, qu'on appelait la pisserotte, où les dames du village venaient rincer leur linge. Elles mettaient un baquet et elles frottaient leur linge devant le réservoir. Et tous les tuyaux étaient bouchés, des tuyaux de grès, je précise. Donc en l'an 2000, on a refait toutes les canalisations, on a refait la fontaine, on a refait une fontaine neuve, on a fait remouler tous les bacs, on n'a gardé que le pilastre, et sur les vieilles cartes postales, il y avait une lanterne qui datait du début de l'électrification. Et cette lanterne, on a trouvé un artisan qui nous a refait la lanterne, et qui, donc ça c'était quelque chose de... Enfin, comment dire, c'était le retour de l'histoire sur la place du village. Alors quand nos successeurs ont décidé de déplacer la fontaine, je ne vais pas discuter là-dessus, c'est leur choix. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont oublié de tirer le fourreau électrique pour remettre la lanterne. Alors pendant quelques temps, il n'y avait rien sur la fontaine. Donc ils ont fait appel à des artistes locaux. Donc une personne a proposé la boule que tu trouves magnifique. On n'a pas les mêmes goûts, on va dire.
Alors cette sphère, elle a été faite par l'école de la Giraudière qui se trouve à Brussieux, hein, c'est ça. Donc il y a une école de ferronnerie, de bois, etc. Donc on peut quand même au moins dire que ça a été fait dans un esprit éducatif et de professionnalisation de certains élèves. Et c'est une très belle école et on peut quand même le dire, ça. Au moins rendre hommage à cette sphère, même si elle n'a pas l'adhésion de tous les habitants. Mais en tout cas, on la voit, elle marque la vision.
Je suis d'accord avec toi, la sphère est belle, mais ce n'est pas sa place. C'est vrai que le projet a été fait par une personne de Rontalon et que c'était fait à la Giraudière, c'est bien. Ce n'est pas Made in China. Voilà.
Mais c'est important. Et du coup, on laissera. Au moins, ça va créer la curiosité de nos chers auditeurs. Et vous allez voir que la place du village, vous allez avoir des badauds qui vont passer suite à l'écoute de ce podcast pour voir cette sphère et faire leur propre idée. Et puis, ils iront boire un petit coup sur la place du village et ils en discuteront. Hein, voilà. On va poursuivre sur la partie de l'église. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette église qui est vraiment dans le centre du village, qui était à l'intérieur d'un château à l'époque ?
Oui, alors il faut dire les églises. Parce qu'à l'origine, c'était l'église Saint-Philibert. Elle était à la place de la fontaine, de ce qui est actuellement la mairie. C'était une église romane, type de celle de Talhuyé ou la chapelle Saint-Vincent. elle était dans l'enceinte du château, puisque le château était à la place de la mairie, jusqu'en haut de la place. Et cette église, elle était devenue trop petite. Alors, en 1870, il y a eu une grande discussion au conseil municipal. Alors, il y avait des gens qui disaient « on veut l'agrandir ». Il y a des gens qui disaient « de toute façon, si on agrandit quelque chose qui n'est pas en bon état, on n'aura jamais quelque chose qui soit en bon état ». Alors, ceux qui étaient les plus réticents, c'était ceux qui payaient le plus d'impôts, bien sûr, et qui trouvaient qu'ils avaient au moins leur place, parce qu'à l'époque, il y avait les places marquées, où chacun payait sa place sur les bancs. Enfin. Et finalement, il y avait un maire à l'époque qui s'appelait M. Rivoire, qui était un visionnaire. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la rénovation du village. Et finalement, ils ont décidé de construire l'église Saint-Romain, l'actuelle église Saint-Romain, 1871-72.
Oui, 71-72, voilà. Pour qu'elle soit finie.
Ça a donc impliqué beaucoup de démolitions. Et puisqu'on parle de l'église Saint-Philibert, il n'existe plus rien de l'église Saint-Philibert. Et on avait appris que dans une maison proche du village, il y avait les pierres qui constituaient le bénitier. Alors, je reprends ma casquette culture et tradition. On en a parlé à l'association que la maison sur laquelle étaient entreposées ces pierres allait se vendre. C'était une résidence secondaire. Alors, connaissant bien les gens, je suis allé les voir. Je leur ai dit, ne vendez pas si vous vendez la maison, est-ce qu'on peut récupérer les pierres ? Ah, mais pas de problème, venez les chercher. Donc, on a récupéré ces pierres. Un bénitier, c'est du granit de Rontalon. Hein. C'est pas du très, très bonne qualité, mais c'est un bénitier sur un pilastre. Donc, on a un artiste dans l'association qui s'appelle Claude Poyard, qui était carrossier, qui sait tout faire. C'est l'homme à tout faire. Et quand il fait les choses, c'est bien fait. Donc, on est allé chez Claude. On a, dans l'association, quelqu'un qui est féru un peu de monuments historiques. On a des jeunes, un jeune couple qui est très précieux. Donc, on a reconstitué le bénitier tel qu'il était à l'identique, avec une photo. Si vous avez 5 minutes, vous passez à l'église et vous verrez le bénitier de l'église Saint-Philibert. Donc, on a construit l'église Saint-Romain, qui est une belle église. Elle est claire, elle est agréable, elle est bien entretenue. Ils ont fait des gros travaux récemment. Ils ont décapé la façade. Elle est très, très belle, l'église. Ça a impliqué d'enlever le cimetière, puisque le cimetière était à cet endroit. Le cimetière était dans le périmètre du château. Donc, on a transféré les morts vers le cimetière actuel, vers la chapelle Saint-Roch. Et la chapelle Saint-Roch, j'en reparlerai après. Ça, c'est une autre histoire. Donc, construction de l'église Saint-Romain, démolition de l'église Saint-Philibert, la place s'est agrandie. On a élargi le passage entre le bistrot, là, face à la bergerie, parce que c'était très étroit. Et on a eu une place qui était un cœur de village. Ça, c'est très important, une place, un cœur de village.
Je confirme, parce qu'il y a eu... Moi, j'ai beaucoup participé à des manifestations sur cette place de village. Et en effet, il y a vraiment ce cœur de village. Et juste aussi, on a lu qu'il restait encore un vestige du château, je crois, sur la place. Il y a un bout de bâtiment, hein, c'est ça ?
Oui, ce qui touche la mairie, là. Oui, c'est ça. Il y a une porte avec un arc particulier. C'est peu de choses, mais c'est joli, quoi. Cet endroit, ça manifeste un peu le passé, quoi. Et puis, il y a un blason dessus.
C'est une pierre de récupération. Elle a le blason des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem dessus. Et c'est une pierre qui a été remise là, je pense, pour symboliser un peu l'histoire. Quand ils ont démoli, il y a un local où les cantonniers rangent leur matériel. Et ça, c'était l'écurie du château. Alors derrière, il reste une partie du château. La maison qui est crépi jaune, là. C'est une toute petite partie du château originel. Il reste cette partie qui est toujours une habitation et qui est privée, voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le château ait disparu finalement ?
Le château a été a passé de main en main diverses familles de nobles. Ça a été les Baladrins, les Foudras, et ça a fini, les Tourillons, tout ça. C'est des familles qui ont au fil du temps disparu. Le château est en ruine. Et la dernière propriétaire, il y a son nom sur la façade de la mairie, s'appelait Mademoiselle Genoux. Et cette Mademoiselle Genoux a donné le château à la mairie. Donc, c'était à la fameuse époque de la grande remodelage du village. Et on a rasé pratiquement toute la partie haute du château. Et on a construit la mairie qui était l'école des filles. L'école des filles sur la place, école des garçons, route de Mornant. Particularité de Rontalon, on a toujours eu qu'une école publique. Il y a beaucoup de villages où il y avait des privés et publics. Ça ne facilitait pas toujours la cohésion du village. Il faut dire qu'il y avait... Bon, si. Mais Rontalon, on a tous été à la même école. Avec des instituteurs très laïcs. Ma grand-mère, qui était 1894, a eu une institutrice corse. Et nous, enfin ma génération, on a eu un instituteur corse. Comme quoi les Corses, ils aiment bien l'administratif.
Bon, en tout cas, Rontalon, comme tous les autres villages de la Copamo, est un village très ancien, parce qu'on parle du Moyen-Âge. Je sais qu'à Saint-Landani, on a même parlé de la période néolithique. Enfin, voilà. Donc on sait qu'ici, il y a vraiment une très très grosse histoire. On est allé faire un tour sur le site internet de la mairie. Il y a plein d'infos super sympas. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous informer auprès de l'Office de tourisme aussi, et puis auprès de l'association que vous représentez. Voilà, je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait. On va enchaîner sur une partie quand même très importante parce que là, on est dans quelque chose qui vous tient à cœur. On est au musée Paul Buyer. Alors déjà, Georges, tu vas en dire un mot et puis évidemment, Jean-Claude, parce que le nom de famille, forcément, il y a une histoire, j'imagine. Racontez-nous, parce que là, on est installé dans un... Faut venir, hein, parce que c'est... Faut venir en famille, c'est... Bon, allez, je vous laisse la parole. Parlez-nous de ce lieu, faites-nous rêver.
Le musée, c'est l'ancienne chapelle des sœurs franciscaines qui avait le couvent dans le village. Enfin, donc, au moment où les sœurs sont parties, c'est-à-dire...
2006,
oui, c'est ça. La mairie, enfin Jean-Claude était maire à ce moment-là, a racheté les immeubles du couvent, quoi. Donc, une partie a été... il y en avait une partie neuve, enfin neuve récente, qu'on soit en 70, un agrandissement, parce que les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, c'était un institut missionnaire. Et Rontalon, c'était un endroit où les sœurs, qui étaient en mission notamment, venaient se reposer, quoi. Et il y a une partie du bâtiment qui avait été, je ne sais pas si c'est donné, par Madame Rochette. Je te laisse en parler, là, oui.
Oui, alors l'origine, il y a trois choses qu'il faut savoir. Dans le musée, il y a qui était Paul Buyer, mais ça, c'est autre chose. On en parle après. Ouais. Alors, l'association, elle est sœurs franciscaines. Alors, les sœurs franciscaines, comme a dit Georges, elles sont venues en 1933 suite à une donation de deux couples. C'était deux sœurs qui étaient mariées à un dentiste qui avait construit la belle maison. Quand vous entrez là, dans la petite cour, à droite, là, il y a une belle maison avec des yeux de bœuf, ou des yeux de bœuf, je ne sais pas comment on dit. Et cette maison, elle était à M. Sèvres, qui était dentiste, mais pas à Rontalon, à Turin. Je précise quand même qu'au début du 20e siècle, il y avait un dentiste à Rontalon qui s'appelait M. Guérin. Pas dire qu'on était un village perdu. Hein. Donc, ces couples n'ayant pas d'enfants, les gens disaient « M. Rochette, c'est un viticulteur, donc il n'est pas mort de soif ». Enfin, on disait à l'époque. Hein. Donc, sa veuve a vécu bien longtemps. Ils ont donné tout ça aux sœurs, toute leur maison. Le cuvier où on appelle le cuvier, où on a fait la médiathèque.
Ah oui.
Et c'était l'endroit où on allait à la cantine. Les enfants des écoles allaient à la cantine. Alors, pour revenir à ce qu'a dit Georges, les sœurs franciscaines sont nées en 1933. Et c'était l'annexe de leur grosse maison qui est au 133 cours Gambetta. Et donc, elles se sont installées à Rontalon. C'était là où elles venaient se refaire une santé, les sœurs qui revenaient de mission. Alors, les sœurs, elles ont eu un impact très important. Moi, j'insiste, parce que quand on a connu le boulot qu'ont fait les sœurs à Rontalon, surtout sur les dernières années, quand elles sont arrivées, enfin, tu es plus ancien que moi, Georges, tu peux témoigner, elles étaient moins impliquées dans le village.
Ah oui, elles sortent parce qu'elles étaient pas cloîtrées, mais un peu semi-cloîtrées.
elle sortait toujours par deux, quoi, vous savez, dans le village, quoi. Et pendant la guerre, elles ont eu un petit orphelinat, c'est-à-dire il y avait des réfugiés, puis des enfants.
Alors, il y avait deux congrégations de sœurs à Rontalon à l'époque. Il y avait les Trinitaires, qui étaient dans un autre site, qui avait été donné par une autre famille. Alors, les Trinitaires, il y avait l'infirmière, la sœur Blandine, qui partait avec sa petite valise faire les piqûres. Et puis, un lieu où elle faisait manger les enfants des écoles. Et puis, les sœurs Trinitaires sont parties dans les années 50. Je ne sais pas, moi.
À peu près.
Ça a amené les franciscaines à s'impliquer un peu plus dans la vie de Rontalon, à commencer par la cantine. La plupart des enfants des écoles, on est de la campagne, hein. Bon, et quelquefois de très loin. Donc on mangeait bien. La sœur cuisinière, c'était une Yougoslave. Elle était adorable. Elle mettait tout son cœur à nous faire ses repas. Et les familles payaient un franc. On ne peut pas dire qu'elles ont profité de la situation. Donc, la cantine, très important. L'infirmière, donc les infirmières, a pris le relais des sœurs trinitaires. Elle faisait le catéchisme. Alors ça aussi, quelquefois, quand on compare ce qui se passait dans les autres villages, ma femme est des monts du Lyonnais, et on compare le catéchisme qu'on a eu. Nous, on a eu un catéchisme qui a été fait par des sœurs missionnaires. On a eu une ouverture sur le monde, très importante, que n'avaient pas les vieilles sœurs qui ronronnaient dans des villages. Elles avaient sûrement autant la foi, mais elles avaient une autre façon de la transmettre. Voilà. Et puis, elles s'occupaient de la paroisse, et puis elles faisaient du social aussi. Elles faisaient du social.
Puis il y a même des enfants qui dormaient
l'hiver,
des hameaux éloignés. Oui, qui dormaient chez elle.
Alors, une particularité, alors, des fois, les hasards de la vie, ils facilitent les choses. Quand j'ai passé la communion solennelle, ça ne se fait plus maintenant, à 12 ans, passer la communion solennelle. Donc, la sœur qui s'occupait des garçons, la sœur qui s'occupait des filles, et puis une sœur qui s'occupait des tout-petits. Il y avait trois sœurs catéchistes. Donc, nous, on avait la meilleure, parce que c'était la plus jeune, la plus dynamique. Après, donc en 1963, elle est partie au Liban, elle est repartie en mission au Liban. On l'a perdue de vue. Bon, on gardait un petit peu sa trace, entre guillemets, par le couvent de Rontalon. Et quand, à peu près en 2000, elle est revenue pour prendre la direction du couvent. On avait de l'affectif pour cette sœur. Les jeunes de ma génération, on avait de l'affectif. Et je vais vous dire, je l'appelle tous les trois mois. Elle est en EHPAD à Lille, elle a 97 ans. Elle est d'un dynamisme extraordinaire. Quand elle décroche, c'est Jean-Claude. Ah, oh, parle-moi de Rontalon. C'était sa vie. Et je vais dire, quand on a acheté le couvent, ça a facilité un petit peu les choses. Voilà. Les sœurs, très important. Moi, je dis, toutes les années que les sœurs ont passé à Rontalon, c'est pour ça que quand on a acheté le couvent, on s'est posé la question, que faire de cette chapelle? Parce que les gens de Rontalon, vous avez un petit espace ici où on est, là. Il y avait des bancs et les petites mémées du village, enfin, je ne sais pas, les petites mémées au sens qu'on les aime bien, les petites mémées, elles venaient à la messe chez les sœurs tous les jours. Il y avait l'aumônier. Et elle venait dans cet espace. Donc on a dit, il faut quand même que ça reste une utilisation. Déjà que les gens puissent y revenir, que ça ne passe pas dans les mains d'un privé, et puis que ça soit quelque chose, je veux dire, de noble. Voilà. Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans l'ancienne chapelle des franciscaines. Je précise que toute l'extension qui a été faite en 70 a été faite par le cabinet d'architectes Ageron Bissuel, qui était à l'époque un cabinet, c'était des pointures. Hein. Et c'est du béton, parce que quand on essaye de planter une cheville dans les murs, ça vibre. Hein.
Et donc, alors là, on est au musée. Il faut nous en parler, parce que là, nous, on voit plein de trucs, mais comment on vient? C'est quoi l'histoire de ce musée? Pourquoi?
Avant de parler du musée, je vais parler de Paul. Paul est né en 1933 sur la place du village, dans ce qui est l'actuelle mairie, qui était l'école des filles. Et sa maman, c'était une petite petite institutrice qui est venue à 20 ans de Lyon faire l'école aux filles de Rontalon et qui s'est mariée avec un jeune homme de Rontalon qui était tailleur d'habits. Paraît que c'était un bel homme, disait. Je sais pas, moi, à l'époque, on n'y était pas. Donc, ils ont eu 6 garçons, dont Paul, le plus jeune, le plus terrible. Paul, c'est un personnage un peu truculent, on va dire. C'était, il est décédé il y a 3 ans. Mais c'est un artiste.
Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à l'école, il était turbulent aussi. Et quand il était puni, l'instituteur le renvoyait chez sa mère, quoi, à l'école des filles. De temps en temps, oui. Ça, c'est une anecdote, quoi.
Mais elle est pas mal, cette punition, là, d'aller à l'école des filles.
Non, ça veut dire que c'était encore pire chez l'instituteur. Non, mais pour dire que Paul, il a eu une formation de serrurier charron à l'époque, dans un lycée qui existe toujours, qui était le lycée professionnel de Brignais. Et il a fait une formation de serrurier charron, donc il savait travailler le bois, il savait travailler le fer. Mais formation basique, hein. Un CRP à 17 ans, il est rentré à la grande poste de Lyon pour réparer les chars à bras en bois. C'est presque le Moyen-Âge, mais pas loin. Paul, c'est un artiste, c'est une tronche. On va dire une chose, c'était une tronche. Et alors, pourquoi il a fait des machines agricoles alors qu'il n'était pas du tout fils d'agriculteur? Il nous a expliqué que ça se pratiquait beaucoup autrefois dans les grandes familles. On envoyait les gamins dans les fermes. Ça faisait une bouche de moins à nourrir et puis ils rendaient...
Oui, il faut bosser.
Ça apprenait un peu à vivre aussi. Parce que dans les fermes, quelquefois, suivant où on tombait... Donc, on l'envoyait à Mornant dans une ferme. Alors,
le Clos d'Onzel.
Le Clos d'Onzel. Il y avait une ferme ici. Et donc, il allait là-bas et il nous disait quand... J'étais petit et je voyais ces grosses machines. C'était resté imprégné dans sa tête, ces grosses machines. Alors, quand au fil des années, bon, après, il a creusé un petit peu la technique, il s'est intéressé aux machines. Et puis, il a commencé par une machine à vapeur, qui, comme de bien entendu, lui a explosé à la figure, parce qu'il faut toujours des brouillons avant de faire des chefs-d'œuvre. Et puis, il s'est acharné, il a fait une machine à vapeur, après, il a fait la batteuse. La première, elle est moins jolie, elle est chez Suzanne, chez sa veuve, elle est moins jolie. Elles sont toutes à l'échelle 1/10, toutes à l'échelle 1/10. Et il a commencé à être connu. Toutes ces machines fonctionnent. Et qu'il a fait des démonstrations dans des fêtes, il allait très loin. Et alors il avait une remorque où il entorsait tout. Puis, alors quand il partait en vacances, si on lui avait indiqué une machine agricole dans le Finistère ou dans le Pas-de-Calais, il partait prendre les mesures, hein. Et puis les côtes et tout. Et puis ses enfants disaient, ben nous, on s'embêtait comme des rats morts, parce que passer une semaine dans un trou perdu, vous verrez, tous les plans sont faits à l'angle de Chine, à l'ancienne.
Alors je précise bien, on est au musée de la miniature des engins agricoles. Voilà, on parle bien de modélisme. Hein,
c'est du modélisme, oui.
Sauf qu'il fonctionne comme le vrai, quoi.
Oui, et... C'est pas vraiment la bonne appellation qu'on a pris au début. On aurait pas dû y appeler musée. Parce qu'après, on a dit maison du modélisme animé. On a remis en dessous. C'est plus la bonne appellation. Mais toute la signalétique avait été faite, on n'a pas voulu changer. Et on explique bien quand on a des gens qui... Parce que maintenant, on fonctionne, on ouvre tous les jours sur rendez-vous. Parce qu'avant, on ouvre une fois. Ça accordait pas toujours aux gens. On explique bien ce qu'ils vont voir. Pour qu'ils viennent voir comme à Saint-Jean des grosses machines. Voilà. Donc, Paul, qui est un Antelanais de cœur, il habite Brindor, il habitait puisqu'il est décédé il y a 3 ans. Il est rentré dans l'association. Et puis un jour, il me dit, tu sais, tout ce que j'ai à la maison, ben non, ça va, hein, puisqu'il s'est suffisamment déplacé. Il est allé exposer au ministère des Transports. Et il nous dit. J'aimerais bien que mes machines restent à Rontalon. C'est bien pour nous. Mais quand il nous a annoncé ça, on avait pas la solde. Alors on lui a dit, c'est bien, l'association, je pense. Mais il faut qu'on ait un endroit quand même pour y mettre en valeur. Et puis les années, quelques années ont passé, jusqu'au jour où on a acheté ça, ce bâtiment. Et ensuite, eh bien, on a retroussé les manches. La mairie a mis aux normes, c'est sortie de secours, enfin tout ce qu'il faut pour que un bâtiment ressorte du public. La mairie on ne paye pas de loyer, je dis que c'est quand même bien, parce qu'autrement on ne s'en sortirait pas. Si avec les droits d'entrée, on ne s'en sortirait pas. Et on s'est installé ici en 2008. Et je précise aussi que, comme on n'a pas beaucoup de temps dans la caisse, on a eu une opportunité de récupérer des vitrines d'occasion qui sortaient quand ils ont viré le musée Guimet. On a appris que ces vitrines risquaient de partir à la décharge. On a écrit au Conseil général qui nous a dit ben, venez les chercher. Donc on a, enfin Claude, notre artiste, c'est pas, on a un artiste Claude Poyard qui les a adaptés en fonction de ce qu'on voulait mettre dessous, les a lustrés.
Oui, penser, illustrer, voilà. Oui,
on avait un menuisier retraité qui était Robert Huissel, que tu as peut-être connu, qui nous a fait les caissons. Et on a pu ouvrir en décembre 2008. On a amélioré un petit peu depuis, mais voilà, ça c'est l'histoire du musée. Merci Monsieur Paul Buyer, c'est... voilà.
Et en plus, c'est quelque chose qui certainement est intergénérationnel, parce que j'imagine que ça doit plaire aussi aux plus petits.
Ouais, vous avez des enfants. Enfin, je sais pas toi, mais toi, oui. T'as des enfants. Alors, les enfants, aujourd'hui, ils s'intéressent aux choses, mais pas longtemps. Enfin, j'ouvre mes petits-enfants. Enfin, les tiens, c'est sûrement pareil, Georges. Oui, ça, il faut pas qu'ils soient trop petits. Les anciens, ils viennent plutôt par nostalgie, mais on leur apprend rien. Alors, on a quelquefois des gens qui sont pas issus du monde rural et qui en retiennent quelque chose. Ça, c'est bien.
Et est-ce que vous arrivez à faire avec des écoles, des petits partenariats pour venir visiter aussi? Ça serait super, ça. Pour les écoles, c'est une manière de se plonger dans à la fois l'histoire, le sujet rural et un peu de manière ludique. Parce que par rapport à un musée qui serait grandeur nature, il y a quand même quelque chose d'atypique.
On a quand même mis 10 ans avant de convaincre la directrice de Rontalon de traverser la place. Il faut quand même le dire. Ils sont venus une fois. Non, mais je le dis quand même, parce qu'il y a nul n'est prophète dans son pays. Mais
ah, ça. Allez, on prend un peu de distance, on regarde un peu autour de nous. Est-ce que vous pourriez nous parler du patrimoine naturel? On en a déjà parlé par rapport au blason, par rapport à la pomme. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur tout ce qui nous entoure, qu'il faut le reconnaître, est vraiment beau, parfois impressionnant aussi, parce qu'il y a du relief? Dites-nous un petit peu ce qu'on voit autour de nous et ce qu'on voit d'ailleurs d'une très belle baie vitrée dans le fond du musée.
Oui, c'est-à-dire que à Rontalon, c'est surtout les fruits, quoi. Les fruits et puis les cultures maraîchères. Mais ça s'est développé à une époque parce qu'on a eu la chance d'avoir le réseau d'irrigation du syndicat mixte d'hydraulique agricole qui a desservi tout le plateau mornantais, là, oui. Mais sans ça, il y aurait plus d'agriculture déjà, oui. Oui. Alors maintenant, il y a de moins en moins d'élevage, des vaches laitières, il y a de moins en moins, mais de plus en plus de cultures légumières, des serres. Et puis les agriculteurs vont vendre sur les marchés extérieurs, quoi, dans la banlieue lyonnaise ou des communes, quoi.
C'est vrai que Rontalon, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une commune où l'activité principale reste l'agriculture. Ça devient assez rare aujourd'hui, il faut quand même le dire. Et je me souviens que Paul Delorme disait aussi que tout le territoire ici, c'était un peu à l'époque le grenier de Lyon. Et donc, Rontalon, vous avez réussi à garder cette agriculture assez variée quand même, parce que je sais qu'il y a un brasseur de bière aussi. Enfin, il y a du fromage.
Des fromages, qu'est-ce qu'il y a aussi des...
Les chèvres.
Oui, les chèvres, bah oui, à Tirmanteau, à
des moutons.
Les moutons aussi, oui, il y a un peu de tout, quoi. Oui.
Et jusqu'en contrebas, là, il y a une ferme un peu atypique.
C'est la ferme du Roman, elle est connue sous le nom Ferme du Roman. Alors, pour l'histoire, elle appartenait autrefois à une famille chantre. Et ces chantres, c'étaient les ancêtres, vous avez dû entendre parler de. Comment il s'appelle? Monsieur Jacques Rivoire. Qui est un féru d'histoire, dont c'était ses ancêtres. Jean Crivoire, était très attaché à cette ferme parce que c'était la ferme de son ancêtre Hugues Chantre. Alors les Chantres, à une époque, ils possédaient beaucoup de fermes à Rontalon. Mais ça, c'était avant la Révolution. Parce que c'était le fameux droit d'aînesse qui faisait que l'aîné, c'est lui qui ramassait le magot, et après, c'est lui qui prospérait. Et les Chantres, ils avaient 5 ou 6 fermes à Rontalon. Il y avait la ferme Tolo, la ferme de Fernand Carat du Favarieux, il y avait la ferme de Thomas, toutes les plus belles fermes. Et cette ferme du Romain, elle a une architecture conservée dans son jus, on va dire, dans son jus. Alors, il y a une, j'ai fait une petite anecdote quand même, que j'ai un petit peu regretté qu'il n'y ait pas eu de suite. Il y a, dans les années, fin des années 80, sur le pré-territoire de la Copamo, il y avait un monsieur qui s'appelait Paul Dubois. Vous avez jamais entendu parler de Paul Dubois. Paul Dubois, c'est un ancien ingénieur chimiste, passionné de patrimoine, et qui connaissait la maison et qui connaissait le propriétaire, qui est toujours le même, il a 92 ans, il est toujours là. Et il avait entrepris une démarche en disant « Le Conseil Général va classer 2 fermes typiques, une dans le nord du département, une dans le sud. » Donc dans le nord, si vous suivez un peu l'histoire, c'est la ferme Reverdy à Saint-Julien-sur-Bibeau. C'est un bâtiment typique du nord du département. Et le sud, c'était celle-ci qui était la mieux appropriée. Alors, on a entrepris des démarches avec M. Paul Dubois, qui avait un petit peu, je vais dire, converti propriétaire, converti malheureusement pas totalement. Et on lui en a parlé, je suis allé le voir avec Paul Delorme, avec M. Paul Dubois. On aimerait classer ta ferme, c'est intéressant pour toi parce que tu auras des subventions, ça t'enlève pas la propriété. Alors, bon, quand on lui dit qu'il y a des avantages, bon, bah, les gens, ça fait. Ça, là où ça a coincé, c'est que quand on a voulu disons, achever un peu la procédure, je suis venu avec le notaire. Et quand j'ai débarqué dans la cour avec le notaire, j'ai vu que ça coinçait un petit peu. Alors, ce que j'ai compris, c'est que il a dû considérer, le propriétaire, je m'entends, il a dû considérer ça un peu comme une intrusion dans sa vie privée. Je crois que c'est ça, hein, plus qu'autre chose. Parce qu'il est, c'est un gars qui est gentil, qui est intelligent, qui n'était pas. D'ailleurs, il y a eu des expositions de peinture dans sa cour. Il n'est pas contre ouvrir sa porte. Il n'est pas contre faire visiter. Mais je pense qu'il ne fallait pas aller plus loin. Mais elle est toujours là. Voilà. Alors après, quid de cette ferme le jour où ce monsieur sera plus là. Voilà.
D'accord. Parce que ce que vous auriez aimé, peut-être, c'est qu'on puisse, ça soit un peu plus ouvert pour pouvoir la faire visiter, peut-être, pour aller un peu...
Disons que ce qu'on craint, c'est qu'elle passe dans les mains un jour d'un privé, et puis qu'il ferme le portail, et puis qu'il dise « fichez-moi la paix ». C'est ça le risque. Hein. Après, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un qui va la démolir. Enfin, voilà. C'est notre inquiétude. Mais bon, le propriétaire a 92 ans. Hein.
Et puis, alors, il y a le patrimoine bâti, il y a l'agriculture, mais il y a aussi tout ce qu'on... Le sport aussi qu'on peut faire ici, la découverte de la nature, voire même l'art. Alors, on a, nous, découvert qu'ici, il y avait ce qu'on appelle le Land Art, qu'il y avait un sentier botanique, qu'il y avait de nombreux sentiers de randonnée, mais aussi des parcours vélo, VTT, parce que moi, je fais beaucoup de vélo, donc j'ai découvert aussi Rontalon comme ça. Pouvez-vous nous en parler, en quelques mots, de ces... C'est aussi de ces petites pépites à découvrir à Rontalon.
C'est-à-dire comme le sentier botanique, par exemple, c'était des marcheurs, un groupe de marcheurs à l'origine qui avaient balisé des itinéraires de ce sentier. Ils avaient fait un panneau et c'était entretenu, quoi. Oui, oui. Avant que le tourisme refasse des itinéraires, c'est-à-dire le Conseil général par les offices de tourisme, quoi, qui ont mis des panneaux, ils ont fait d'autres itinéraires. Il y en a qui reprennent des portions identiques, quoi. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de marcheurs qui viennent, enfin, de beaucoup de la ville, quoi. Ils viennent des groupes de marcheurs qui font des randonnées, ils montent jusqu'au Signal, jusqu'à la Croix-de-Ravière, oui, jusqu'à Croix-Forêt aussi, quoi. Oui, oui. Mais ça, on en voit tout le temps, quoi. Et puis, c'est très agréable. Et puis, ils font un petit peu vivre le commerce aussi, parce que la bergerie fait des repas, le resto, enfin, le café de la place en a fait aussi. Voilà, mais donc, c'est vrai que ça, c'est surtout du pédestre, quoi. Puis les VTT. Les VTT, ben, la COPAMO avec l'Office du tourisme, ils ont fait des sentiers, enfin des itinéraires VTT, quoi. Et puis le balisage aussi de ces sentiers, donc c'est très important, quoi, que ça puisse faire, parce que c'est très emprunté aussi, hein.
Voilà. L'idée première du sentier botanique, c'est un groupe de bénévoles, c'était pour faire découvrir la flore. Alors, sur ce sentier, il y avait des petits panneaux qui étaient renouvelés suivant la saison, quand la plante fleurissait. Et c'était intéressant pour les enfants. C'est pas loin du village, c'est une petite sortie pour les familles. Voilà, donc, sentier botanique. Je vais faire une petite parenthèse pendant qu'on est sur les chemins. Vous savez qu'un talon a été construit sur l'itinéraire de la voie romaine. La voie romaine, important. La voie romaine, c'était la voie d'Aquitaine, une des voies d'Aquitaine. Et elle traversait, elle passait là, devant, elle montait le village. Et il y a, quand on était jeune, il y a quelques années, il y avait un tronçon de la voie romaine qui était en parfait état. Ça partait de la croix de la Brosse, de la croix Sainte-Agathe, là, jusque sur le plateau de Tirmanteau. Et on avait des dalles bien disposées. Alors, les Romains, ils étaient quand même pas plus bêtes que nous. Ils faisaient des rigoles avec une certaine inclinaison pour l'eau. Et ce tronçon était très bien entretenu. Quand je veux pas revenir sur la phrase que j'ai dite au début, mais en 70 environ, on a décidé d'enterrer un gros câble télécom, le Lyon-Clermont. Alors, on a pris une carte, on a tracé tout droit, mais les Romains, ils savaient tracer droit aussi. Et on est passé sur l'emplacement de la voie romaine. Et il n'y a pas eu un instruit pour dire ne touchez pas aux dalles. Ils ont passé en plein milieu. Ils ont tout arraché. Et quelques années après, il y a le réseau d'irrigation qui est arrivé. On a construit un réservoir, le réseau d'irrigation qui a sauvé l'agriculture de Rontalon. Je pense que Georges l'a dit et c'est vrai. Et le peu qui restait, c'est tout arraché. Alors ça a eu deux conséquences. La première, on a perdu une partie du patrimoine qui était très, très, très intéressante, un des rares tronçons de voie romaine qui était bien conservé. Et depuis qu'ils ont tout arraché, chaque fois qu'il y a un orage, eh ben, il n'y a plus de rigoles, le chemin, il n'y a que des ornières. Voilà. Je voulais parler de la voie romaine parce que ça m'a toujours révolté, cette façon désinvolture des gens qui ont cassé.
Et en plus, ça nous renvoie à la science qu'avaient les civilisations anciennes, qui parfois ramènent à une certaine humilité malgré tout ce qu'on pense savoir. Allez, on finit. Parlez-nous aussi de ce petit théâtre de verdure là que vous avez mis en place, qui est vraiment chouette. Nous, on est très sensibles à des histoires en musique sur comment créer la magie juste avec les éléments qu'on a autour de nous, le paysage, le soleil, les arbres. Et là, vraiment, c'est ce que vous avez réussi à faire. On est passé faire un petit tour juste avant pour s'imprégner du lieu. Il est incroyable, ce lieu qui est vraiment qu'on voit d'ici, d'ailleurs, tout à côté. Dites-nous, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est-à-dire que c'est dans le jardin public, c'est un terrain qui appartenait aussi aux sœurs franciscaines, qui a été donné par les sœurs franciscaines pour faire un jardin public, un parc où les gens du village, les enfants pouvaient aller jouer, quoi. Oui, oui. Et puis, mais c'est vrai que là-bas, c'est magnifique, hein, le paysage, les arbres, la pente, on a une vue sur toute la colline, quoi. Oui, oui. Et puis la municipalité plus tard, la nouvelle municipalité, c'est pas nous qui l'avons fait, a décidé de mettre une scène, ça plus exactement, dans le fond du terrain, et là où ça a permis des rassemblements, un petit peu des fêtes aussi, mais surtout des rassemblements, et c'est très accessible, c'est pratiquement dans le village, quoi. Oui, oui.
L'inconvénient, c'est en pleine bise, je vous préviens. Hier, ça décoiffait.
Oui, c'est vrai. Du coup, ça limite un petit peu
les
périodes où on peut l'utiliser. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est hyper chouette. Et à la fois, comme tu dis, Georges, dans le village et quand même un peu à l'écart. Donc, c'est aussi intéressant.
Alors bon, on arrive à la fin. En effet, en préambule, on disait que vous n'étiez pas avare de paroles. Mais ce qu'on va faire, parce que en fait, vous avez beaucoup de choses à raconter, évidemment. Donc, on invite vraiment les gens à aller à l'office de tourisme, à venir à Rontalon, tout simplement. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, pour aller goûter les produits locaux. Parce que voilà, il y a plein de bonnes choses à manger, à boire, venir faire de la randonnée, venir faire du vélo, venir découvrir le musée, la maison du modélisme de Paul Bouillet. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire à Rontalon, donc prenez le temps, venez découvrir. Puis en plus, on est vraiment sur les hauteurs de la Copamo, les monts du Lyonnais sont à côté, il y a Saint-Martin qui est à côté, il y a Turin, après on peut aller sur Iseron, enfin bref, la ligne de chemin de fer, hein, j'ai oublié d'en parler.
Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la ligne de chemin de fer qui a eu une importance quand même, même si c'était peut-être une erreur d'avoir fait ça, parce que ça a eu un coût considérable pour le peu de temps où elle a fonctionné, quoi. Oui, oui. Mais enfin, à l'époque, c'était quand même pour aller dans les monts du Lyonnais, pour aller à Messimir. Nous, ça venait de Saint-Just, quoi, enfin de Lyon, et il y avait à Messimir, il y a un embranchement, une sur les monts du Lyonnais, l'autre sur le plateau mornantais, quoi. Oui, oui. Mais il y a des gens il y a la Saint-Symphorien, par exemple, par le train, où à l'époque, il n'y avait pas de car, il n'y avait pas, bien sûr, je crois qu'elle a cessé dans les...
En 31, donc c'est pour les voyageurs, elle a été conservée 2 ans pour les marchandises, mais ce qui s'est passé, c'est que quand on arrivait à Messimy, c'était des bois larges. Et à partir de Messimy, c'était des voies étroites ici, parce qu'il y a beaucoup de virages. Donc plus il y a des virages, plus il faut rétrécir les voies. Et quand il fallait, on chargeait des marchandises à Saint-Symphorien, à Messimy, il fallait tout dévagonner. C'est ce qui a tué le côté marchandises. C'était le fait que les voies soient pas homogènes. Voilà.
On a notre petite tradition à la fin de cette causerie, c'est qu'en fait, on vous laisse le mot de la fin.
On souhaite qu'il garde son caractère rural, quoi, mais sans exclure les nouvelles constructions. Il faut bien que les gens se logent, quoi. Oui, oui. Mais de garder surtout l'agriculture et puis les paysages, quoi. Oui, oui. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, une activité aussi artisanale, quoi. Oui, une activité artisanale. On n'a pas parlé de la soyeuse, quoi, aussi, mais qui est la ferme-brasserie, quoi. Et puis, tous les paysages, on y tient particulièrement. Quoi. Voilà.
Et puis, peut-être ajouter aussi qu'on a un facteur d'orgue. Facteur d'orgue qui construit des orgues neufs, qui fait l'entretien des orgues anciens. Mais, alors, pour l'instant, il a un gros marché pour la Corée. Donc, il a un orgue qui est en cours de montage dans l'église de Rontalon. Si vous avez 5 minutes, vous verrez, il est en cours de montage. Donc, il monte ses orgues dans un édifice assez haut, et il fait tous ses réglages, parce que avant de partir, il faut que tout ça soit bien au point. Il redémonte tout, mais dans des caisses, et il va remonter ses orgues en Corée. Donc il y en a en cours. Il m'a dit qu'il en avait un autre en commande. Ils en ont déjà emmené 3. C'est quelqu'un qui, donc Rontalon est connu jusqu'en Corée. Donc, c'est quand même pas à côté. Donc, ça serait bien que les gens du territoire mornantais connaissent un petit peu mieux Rontalon. Voilà. Et je suis d'accord avec Georges en disant, on n'est pas contre le modernisme. Je pense que l'agriculture, si elle existe, c'est qu'elle a su se moderniser. Si vous avez encore des jeunes, c'est qu'il y a l'irrigation, c'est qu'il y a la mécanisation, c'est qu'il y a un terrain de bonne qualité aussi. Donc culture et tradition, on est là pour transmettre un peu l'histoire. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas la grande histoire, celle qu'on va chercher dans les archives départementales. La petite histoire, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. De ce qu'on a, de ce qui s'est fait il y a 50 ou 150 ans, il y avait une convivialité dans les villages, il y avait une vie de village. Et c'est dommage que les nouvelles populations, je ne veux pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas, mais si on continue comme ça, on va perdre cette vie de village. Il y a des villages, on dit c'est des villages dortoirs. Et pourquoi c'est des villages dortoirs? Parce que les gens ne se sont pas intéressés à l'histoire du village. Voilà. Alors, c'est mon souhait. Voilà.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la commune de Rontalon et la communauté de communes du Pays Mornantais.